La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi quotidienne de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute du 103 FM pour un deuxième voyage de l'Optimiste, notre tout nouveau format d'une demi-heure pour décrypter l'actualité locale. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Pour Radio Campus Angers, le sujet de l'égalité des genres est toujours central et aujourd'hui en particulier. Le courant de cette journée nous amène loin, jusqu'au Nigeria, puisqu'Enora nous présente une chronique littéraire sur le roman Sous les branches de Ludala de Chinelo Okparanta. Notre optimiste revient ensuite à son port, à Angers. Sophie s'est rendue place du ralliement cet après-midi pour rencontrer les Coloreuses, un mouvement féministe présent à Angers et dans toute la France. Ces militantes collent des messages féministes et contre les violences faites aux femmes dans l'espace public. À Angers, les Coloreuses comptent parmi les organisatrices de la grève féministe qui se déroule en ce moment même, place du ralliement. Tout est prêt pour commencer, hissons la voile sans plus tarder. Enora m'a rejointe à bord de notre optimiste pour présenter sa chronique. Bonsoir Enora.
Bonsoir.
Tu es notre experte en littérature à la rédaction et je sais qu'il y a un livre dont tu voulais nous parler pour cette journée internationale pour les droits des femmes.
Et oui, je vais vous présenter « Sous les branches de Ludala » par Chinelo Okparanta.
Alors, de quoi ça parle ?
Dans « Sous les branches de Ludala », on suit la vie d'Ijeoma au Nigeria à partir de 1968 et la guerre civile du Biafra. Et contre toute attente, ce n'est pas un roman de guerre armée, c'est une guerre, mais d'affirmation de son identité. Ijeoma perd son père dans un bombardement, puis sa mère la laisse comme servante à la famille d'un professeur quand elle n'a que 11 ans. Dans cette vie troublée par la politique, le machisme et la religion surpuissante, Ijeoma va découvrir l'espoir dans les bras d'Amina. Et je ne vais pas en révéler davantage. J'ai envie qu'un maximum de personnes découvrent la déconstruction et la construction d'Ijeoma dans un pays en instabilité politique permanente. Que je ne sois pas la seule à être émue par la découverte de l'amour entre Ijeoma et Amina, ni la seule à vivre la douleur de se conformer au rôle de bonne femme, bien à sa place, qu'on se questionne sur ce que dit la Bible sur les relations amoureuses correctes aux côtés d'Ijeoma.
Et justement, à propos de la Bible, j'ai vu que le Nigeria est le deuxième pays le plus religieux au monde. 98% des habitantes et habitants déclarent suivre une religion, d'après une enquête de 2021 de Statista Global Consumer Survey.
Oui, et c'est d'ailleurs très présent dans le livre par le personnage de la mère, et il y a même des passages de réapprentissage de ce que devrait être l'amour selon la Bible. C'est puissant. Parfois, je ne pouvais même pas continuer à lire tant ça me prenait aux tripes.
On sent vraiment que c'est un roman qui t'a beaucoup touchée.
Oui, j'ai adoré l'écriture de Chinelo Okparanta. Avec ses thèmes de guerre, d'homophobie, de machisme, de violence physique et morale, c'est facile d'écrire un livre brutal. Mais pas Chinelo Okparanta. Elle amène la brutalité avec tendresse, ce qui ne rend le tout que plus émouvant. En fait, en lisant ce roman, j'ai été touchée, en colère, dégoûtée, happée, malmenée. Les thèmes sont si durs que revenir à ma lecture était parfois laborieux. Et en même temps, j'ai été hypnotisée. Par contre, j'insiste sur la prudence. Certaines scènes peuvent être vraiment difficiles.
Je retiens. Et pourquoi donc tu penses que Sous les branches de Ludala représente la Journée internationale des droits des femmes ?
Pour moi, c'est un condensé des luttes des femmes pour l'égalité aujourd'hui dans le monde. Machisme, oppression religieuse, difficulté d'accès à l'éducation, mais aussi mariage arrangé, devoir conjugal, inégalité ethnique et bien sûr la question LGBTQIA+.
Et à ce propos, au Nigeria, l'homosexualité est illégale. une personne peut être condamnée jusqu'à 14 ans de prison, voire lapidée.
Après, il faut bien garder en tête que ce roman ne sert pas à pointer du doigt le Nigeria comme étant le pire élève. La situation y est certes compliquée, mais comme dans d'autres pays. Dans une interview, Chinelog Paranta dit que la différence réside dans la forme de la violence. Violence physique contre violence émotionnelle.
Et on peut dire donc que Sous les branches de Ludala est représentatif d'un problème global.
Tout à fait. Aux États-Unis, beaucoup des membres de la communauté LGBTQIA+ se retrouvent à la rue. En Lituanie, la Gay Pride de 2021 a failli ne pas se faire dans la deuxième ville du pays. Les organisateurs ont dû faire un recours contre la mairie. En Corée du Sud, la sergente Boon Hee-sun a été renvoyée de l'armée après avoir transitionné vers le genre féminin. Malheureusement, on pourrait continuer encore longtemps les exemples de discrimination LGBT-phobe. Dans les pays non développés, ou dits développés aussi d'ailleurs, et Sous les branches de Ludala, pour moi, rappelle aussi cette lutte internationale.
Merci Enora, je sais que tu avais encore beaucoup de choses à dire sur ce roman et nos auditeurs et auditrices n'auront donc qu'à le lire pour découvrir le reste. Vous pouvez retrouver Sous les branches de Ludala par Chinelo Okparanta en français aux éditions Belfond. Quant à nous, nous continuons notre navigation sur les notes de Kendra Morris, This is Life.
Ready for tonight.
Nous voilà de retour dans l'Optimiste qui suit les bonnes ondes du 103 FM. Je vous propose maintenant d'écouter l'échange que Sophie a eu avec le groupe des collages féministes à Angers à l'occasion de la grève féministe organisée pour le 8 mars à Angers.
Bonjour Léna, bonjour Maëlle, vous êtes membre du collectif Collage Féministe à Angers. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les collages féministes sont des messages féministes collés au mur des villes, dénonçant dans un premier temps le sexisme et les féminicides, meurtres de femmes en raison de leur genre. Aujourd'hui, les collages s'ouvrent aussi à des questions de lutte intersectionnelle. Ces collages de rue nous mettent face à une réalité crue, celle d'une violence sociale intégrée contre les minorités, notamment de genre. Pourquoi avoir choisi de rejoindre ce collectif, Léna ?
C'était en février 2020, après les Césars. Enfin, ouais, après les Césars, et j'avais une colère depuis longtemps, mais qui s'est vraiment déclenchée après cet événement.
Et vous, Maëlle ?
C'était en novembre 2019, donc quelques mois après le départ le commencement de ce collectif. Et c'était aussi, je faisais déjà partie du mouvement féministe avant. Mais là, ça me paraissait très concret, hyper puissant. Et le fait de faire ça en mixité choisie, de faire ça le soir, ça me paraissait beaucoup plus puissant. Et on voit que oui, ça a un impact et que c'est puissant.
Par rapport à cette colère dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'elle est essentielle pour faire bouger les choses ?
Je pense que oui. C'est ça qui donne l'énergie pour ce qu'on fait, pour se battre, pour la manif d'aujourd'hui, créer des slogans dans la rue. Ouais, la colère.
Donc cette colère, elle émerge face à l'invisibilisation des femmes ou par rapport au César, c'était par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement ?
Ouais, c'est plein de trucs. C'est déjà aujourd'hui que le compte Twitter de la police fasse l'éloge d'hommes. Voilà, rien que ça, la colère qui vient directement, quoi.
Oui, parce qu'effectivement, le compte Twitter de la police du 69 a fait l'éloge de Jules Ferry, par exemple, pour dire qu'il avait grandement participé à l'évolution des droits des femmes. Pour revenir un peu sur vos objectifs personnels à travers ces actions militantes, qu'est-ce que vous espérez de ces collages ?
Moi, c'est d'abord vivre un moment avec d'autres personnes féministes. Et si c'est possible, passer un message aux gens dans la rue qui se baladent et qui voient ces mots, ces lettres collées sur les murs et que ça peut interroger, ou même faire changer d'avis, ou... Ouais.
Et vous, est-ce que vous avez des objectifs particuliers en faisant ces actions de collage féministe ?
Surtout de rendre visible ce que personne ne voulait voir. Au départ, comme vous l'avez dit au début, c'était les féminicides, donc marquer les noms des femmes assassinées dans le cadre de violences conjugales. Les noms qu'on ne compte pas. Et après, donc voilà, des revendications et dénoncer différentes faces du sexisme et différents effets du patriarcat, mais comme le racisme aussi, mais aussi dénoncer le capitalisme, le validisme, enfin différentes oppressions.
Et par rapport à cette action, c'est quand même une action de désobéissance civile. Est-ce que la désobéissance civile, c'est vraiment le seul moyen de faire entendre la parole des femmes aujourd'hui ? Par rapport à l'invisibilisation, par exemple, on peut constater parfois de la part des médias.
Pas forcément le seul moyen, parce que ça vient compléter aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux par ailleurs, et ce qui se passe dans les manifestations, et ce qu'on fait déjà, toutes les luttes qui existent déjà depuis longtemps dans différents assos et dans les collectifs. Mais là, oui, c'est un acte clairement désobéissance civile, puisque c'est illégal. Et surtout, on reprend la place qu'on nous a enlevée ailleurs. Enfin, c'est aussi une action très forte d'occupation de l'espace public, d'afficher nos idées sur les murs, des villes que nous n'avons pas construites, qui ne sont pas construites pour nous, en tant que minorité de genre ou en tant que femme. Et donc nous, voilà, c'est de la réappropriation plutôt, par la désobéissance civile du coup.
Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les autorités ?
On a eu, oui, quelques problèmes avec la police. À Angers, on est assez tranquille, mais il y a beaucoup de coloreuses dans d'autres villes qui ont de gros problèmes et il y a des amendes qui ont été mises, il y a eu des condamnations en fait pour des. On parle bien de feuilles collées avec du papier peint, de la colle à papier peint sur des murs. Et non, il y a encore. On peut se faire condamner pour ça, quoi. Ça peut aller plus loin que des amendes. Nous, on a juste eu des échanges avec la police, mais seulement verbales, sans qu'il y ait vraiment de répercussions. Mais voilà, on est plutôt chanceuse à Angers par rapport à ça.
Pour vous, qu'est-ce que ça dit de notre société d'aujourd'hui qu'il y ait des verbalisations par rapport à ces collages ?
C'est bon signe et mauvais signe. Bon signe parce qu'en fait ça veut dire qu'on fait un peu peur et que ça a de l'effet. puisque la police réagit. Sachant que la police ne prend pas nos plaintes, quand on va déposer plainte pour viol, la police ne nous croit pas si on dénonce des violences conjugales. Et là, par contre, feuille de papier collée sur un mur, ah, ça fait réagir. Mauvais signe, parce que voilà, ça, en fait, faire un acte politique aussi simple, ça peut mener à une condamnation. Donc ça, c'est grave. En fait, ça dit quelque chose de grave sur notre société.
Et la sororité, solidarité entre femmes est au cœur du féminisme. Est-ce que la sororité, pour vous, c'est déjà le début du militantisme ?
Je pense que plutôt que dire sororité, on peut dire adelphité, pour inclure les personnes trans qui sont dans la lutte. Et du coup, ce mot, ouais, il est hyper important et c'est un peu comme le signe de ralliement, je dirais.
Et se rallier autour de cette cause, discuter, échanger entre femmes, c'est déjà une part de militantisme pour vous ?
Oui, et surtout quand on le fait en mixité choisie, en fait. Donc là, comme là, aujourd'hui, la tête de cortège, ce sera en mixité choisie, ça veut dire 100 hommes, 6. Donc c'est ça aussi les conditions pour une adelphité safe, enfin un sentiment d'adelphité ouais, en toute sécurité. Et oui, donc se rallier pour cette cause, ouais, c'est très important.
Et donc cette mixité choisie, elle est faite surtout à des fins de se sentir en sécurité, c'est ça ?
Oui, et puis surtout parce qu'en fait notre voix est suffisante pour dénoncer le sexisme, pour parler du 8 mars, pour parler des droits des femmes et des minorités de genre. En fait, la voix des personnes concernées qui vivent vraiment le sexisme, qui en sont victimes en tout cas, elle est suffisante en fait. Même il y a 2 ans, on a fait la manif entière en mixité choisie. Et voilà, en fait, j'ai pas d'autre raison que de dire ça. En fait, c'est suffisant. On a nos choses à dire, on a nos revendications. Il n'y a pas besoin que d'autres personnes qui sont dominantes viennent parler à notre place.
De faire des manifestations en mixité choisie, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part ça exclut une incitation à la solidarité de ces personnes dominantes ?
Ils peuvent être solidaires. Par exemple, là, ils peuvent venir à la manifestation tout à fait, mais en laissant la place en priorité aux personnes concernées par le sexisme.
Donc c'est pas vraiment en mixité choisie puisqu'elles peuvent venir, non ? Ou comment ça ?
Ah, en mixité choisie parce qu'elles ne peuvent pas être en tête de cortège. La tête de cortège sera vraiment en mixité choisie et la prise de parole sera faite par des personnes concernées.
À Angers, vous êtes près de 80 à vous organiser pour préparer vos actions de collage. Comment se manifeste cette solidarité au sein du collectif ? Est-ce que vous avez des échanges entre vous au-delà de ces actions, Léna ?
On a un compte, un groupe, Signal, pour discuter de ce qu'on fait. Et ça arrive qu'on se retrouve dans un bar le soir, après les actions ou entre les actions, pour créer aussi, pour se connaître mieux que juste coller ensemble.
Et que vous apporte le collectif dans votre vision du féminisme ? Est-ce que vous avez pu changer d'idée grâce à des personnes que vous avez rencontrées ?
Moi, ça m'apporte énormément au quotidien, déjà, de voir cette adelphité qui existe entre personnes qui ne se seraient jamais rencontrées normalement, parce qu'on vient de milieux très différents, on est d'âge très différent. Donc oui, ça apporte énormément en fait. Et le groupe, l'amitié en fait qui s'est créée, les différentes amitiés qui se sont créées au sein du groupe quand on se retrouve pendant les collages, en dehors. Déjà rien que de faire cette action-là, de le faire dehors la nuit, il faut qu'il y ait un lien énorme entre nous parce qu'il faut se faire confiance quoi.
Et Maëlle, vous avez 33 ans et certaines des jeunes militantes du collectif vous qualifient de maman du groupe. Est-ce que vous pensez avoir un rôle de transmission ?
Non, c'est un peu un hasard ce surnom. Après, je pense pas avoir un rôle particulier au sein du collectif.
Et Léna, est-ce que vous percevez par exemple des figures porteuses du mouvement des coloreuses qui vous inspirent ?
Je vois des têtes qui reviennent souvent, que je croise souvent pendant les collèges et en dehors. De l'inspiration, oui, sûrement dans ce que ces personnes donnent au collectif et à la lutte.
Donc pour en revenir à cette journée internationale des droits des femmes, que représente pour vous le 8 mars ? Qu'attendez-vous de cette journée, Maëlle ?
De l'argent. De l'argent, toujours le million, les millions promis depuis des années par différents gouvernements, aux associations féministes, des mesures concrètes, qu'on prenne nos plaintes quand on va au commissariat, qu'on n'ait plus peur dans la rue, qu'il y ait une réelle éducation féministe aussi au sein de l'éducation nationale et au sein de l'éducation des enfants en général. Et peut-être la fin du patriarcat. Et on a commencé à s'organiser aussi au sein de la coordination féministe nationale. C'est la première fois cette année. C'est une coordination qui réunit une centaine d'organisations féministes au niveau national qui ont eu lieu à Rennes au mois de janvier. Et donc on prépare cette grève-là aujourd'hui, enfin le 8 mars 2022, mais on a surtout pour perspective le 8 mars 2023. On espère qu'il y ait une vraie grève, un vrai mouvement comme ça se fait dans des pays d'Amérique latine ou en Espagne.
Et vous, Léna ?
Rien de plus que ce que Maëlle a dit, je pense. Elle a bien résumé la lutte et la fin du patriarcat.
Et par rapport à cet argent que vous attendez pour les mouvements féministes, qu'est-ce que vous voudriez faire de cet argent ?
Alors nous, en tant que coloreuses, on n'attend pas d'argent nous directement, puisqu'on est auto-financées. Quand je parlais d'argent, c'était pour les associations, vraiment. Donc ce serait plutôt aux associations qu'il faudrait poser la question.
Par rapport aux questions d'intersectionnalité des luttes, c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez être engagée à travers vos collages ?
Ouais, carrément. C'est un débat qu'on a au quotidien au sein des coloreuses, qu'on mène et du coup qu'on débat souvent. Et ça évolue, je pense, pas mal sur ce sujet-là. Et de plus en plus, on affirme cette volonté d'intersectionnalité. Et c'est le thème du mois du genre cette année, donc ça promet des belles choses.
Et quand vous dites que ça fait débat, ça veut dire que des fois vous n'êtes pas d'accord ou...
Pas sur le concept même. Je m'embarque dans quelque chose de houleux, mais...
Même question, Maëlle. Est-ce que par rapport à cette question d'intersectionnalité des luttes, on parlait avec Léna de peut-être débat autour de ces questions d'engagement. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Nous, on n'a pas vraiment de débat. Enfin, notre mouvement est intersectionnel sans. Voilà, il n'y a pas de condition là-dessus. Il n'y a pas de débat interne. Mais après, c'est comment on l'applique. Enfin, par exemple, des fois, on le fait mal, en fait. On veut prendre en compte toutes les oppressions. Mais sauf que le patriarcat nous traverse, nous aussi. Le système hétéro-patriarcal, le système cis-hétéro-patriarcal nous traverse aussi. C'est toujours perfectible. Par exemple, nous, dans notre mouvement, on est une majorité de personnes blanches. Et donc. Forcément, j'imagine qu'on a des travers. On peut oublier ce que vivent parfois les personnes racisées, par exemple. Enfin, voilà. C'est ça aussi l'intersectionnalité, je pense, c'est savoir se remettre en cause et savoir quelles oppressions on vit et quelles oppressions on peut reproduire nous-mêmes.
De retour dans l'Optimiste sur Radio Campus Angers. Merci Sophie pour cette interview et merci à Maëlle et Léna du groupe des collages féministes à Angers. En ce moment même, une manifestation se tient place du ralliement pour le 8 mars. Un cortège est organisé pour défiler dans les rues du centre-ville d'Angers. Et nous écoutons maintenant une autre artiste femme en cette journée internationale des droits des femmes, c'est Marion Rampal avec son titre « Où sont passées les roses ?»
À l'ombre de Kimon, nous allons nous prendre au jeu du monde. Nous reverrons les heures du choix sur les ondes qui grondent dans son jardin, qui fronde sur la route, qui ose à travers moi, qui gronde sous mon doute. L'amour passe en sifflant devant moi, mais sa flèche est à l'ombre. Sous les plaies ouvertes, je vois et je rejoins la ronde. Allons voir si les roses poussent encore décemées, nous parlent d'autres choses au-devant de qui sait. Allons voir si les roses poussent encore décemées, parler d'autre chose au-devant de qui sait.
I found love, but how my skin was torn. Roses seldom grow without a thorn. our wounds heal, bathed in the spring of words. When sung lonely with the birds,
allons voici les roses poussant encore des sonnets, nous parler d'autre chose au devant de qui sait. L'ombre de qui ment, nous allons nous perdre au jeu du monde.
The candle in the shadow glows, keep looking for the rose.
Nous reverrons les heures du choix qui tombent sur les sons.
Nous revoilà en direct sur le 103 FM. Merci à Sophie qui était à la technique de cette émission qui touche à sa fin. Notre optimiste a déjà complété sa navigation pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir vogué avec nous. En cette journée internationale pour les droits des femmes dans le monde, tenez à vous rappeler les numéros d'urgence pour les femmes victimes de violences, d'harcèlement ou de tout autre comportement sexiste ou sexuel. Si vous en êtes victime, vous pouvez appeler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le 39 19 de manière complètement anonyme. En cas de danger immédiat, le numéro à saisir est le 17. Pour ce soir, restez sur notre fréquence pour dernière séance à 20h, l'émission cinéma et séries du 103 FM, pour une heure consacrée à la filmographie de Xavier Dolan. Et ensuite, Electric Troubles, le rendez-vous rock d'Étienne, de 22h à 23h. Très belle soirée à vous sur Radio Campus Angers.
Vous pouvez réécouter l'émission sur le www.radiocampusangers.com.